de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Christelle Yesso.
Bonjour et bienvenue sur Radio de la Paix. Vous suivez le journal. Tout de suite, les titres. Les jeunes issus des différents partis politiques ivoiriens ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur leur engagement et le leadership politique à l'initiative du bureau ivoirien du National Democratic Institute. Plus de détails dans ce journal. Lutte contre les violences basées sur le genre, un sous-groupe protection VBG a été mis en place dans la région du Bounkani par la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le lancement des activités a eu lieu à Bouna le 30 novembre. Et à l'international, en Tanzanie, le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont eu lieu le week-end dernier fait état de 76 morts. La présidente Samia Suluhu Hassan écourte son séjour à la COP28 pour venir constater les dégâts. Et en invité de la rédaction, nous recevons le directeur général de l'OIPR de Côte d'Ivoire, le général Tondo Sama Adama. Il est revenu sur les enjeux de la politique de conservation et de protection du parc national de Taï. Un entretien réalisé avec Stéphane Adams que vous aurez l'occasion de suivre dans quelques minutes. Ce journal avec un renforcement de capacités offert par le bureau ivoirien du National Democratic Institute aux jeunesses des partis politiques du RHDP, du PDCI-RDA, du PPACI, du FPI, de l'URD et du LEADER. La formation, articulée autour d'un atelier tenu du 31 janvier au 3 février 2023, visait à doter les jeunes participants d'outils stratégiques et opérationnels nécessaires à l'affirmation de leur engagement et leadership politique. Le compte-rendu de Mata Touré.
L'Académie est l'un des axes du programme Transition et Inclusion Politique, PTI. Celui-ci vise notamment à encourager l'inclusion politique des jeunes, ainsi que leur participation à la résilience politique et démocratique en Côte d'Ivoire. François Traoré, le directeur résident du National Democratic Institute.
Cette cérémonie d'aujourd'hui cadre avec une activité que nous menons depuis 2018, qui est un programme qu'on a mené à travers la Côte d'Ivoire, dans 15 localités, pour faire en sorte que des jeunes, des femmes, mais des personnes vivant dans des zones reculées où l'accès est limité à l'information politique électorale, pouvoir s'engager véritablement et de façon constructive dans des processus électoraux et politiques de la Côte d'Ivoire.
Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est parrain à l'occasion de cette promotion.
Vous savez, on a coutume de dire que la jeunesse est l'avenir du pays. Et si on veut avoir une nouvelle classe d'hommes politiques, il est important de commencer à former la jeunesse du pays, à lui donner les valeurs républicaines qu'il faut, les valeurs démocratiques qui sont essentiellement des valeurs de liberté d'opinion, liberté d'expression, de tolérance, de dialogue et toutes choses qui contribuent à renforcer la cohésion donc, entre les populations. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de l'USAID comme financier avec comme partenaire technique le NDI.
Des recommandations et orientations ont été formulées aux bénéficiaires pour la suite de leur carrière politique.
Et du côté du Sénat, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté à l'unanimité de ses membres, ce jeudi 7 décembre à Yamoussoukro, trois projets de loi présentés par le ministre des Finances et du Budget. Adama Koulibaly a salué au terme des travaux l'adoption de ces projets de loi, synonyme d'une bonne gestion financière du budget 2022. On l'écoute au micro d'Emile Yao.
Le premier projet de loi porte sur les livres de procédure de recettes non fiscales. Le deuxième projet de loi, c'est un projet de loi de ratification d'augmentation de l'aval que l'État a accordé à Côte d'Ivoire Énergie l'année dernière. Et le troisième projet de loi, c'est une loi de règlement en fait du budget 2022. Ces trois projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que pour le premier projet de loi, il s'agit d'assurer plus de transparence dans la collecte des recettes non fiscales Donc c'est une loi importante qui va conforter les recettes de l'État, mais en même temps assurer plus de transparence dans la gestion de ces recettes non fiscales. Le deuxième projet de loi, c'est l'augmentation de l'aval que l'État a accordé à Côte d'Ivoire Énergie, qui mène deux projets qui sont d'importance majeure, notamment le programme national d'électrification rurale et le programme d'électrification pour tous. Pour le troisième projet de loi, il portait sur la loi de règlement du budget 2022. Avec le vote de cette loi, aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les actions qui ont été menées en 2022 ont été confirmées. L'État a eu quitus sur la bonne gestion financière du budget 2022. Bien sûr, après le rapport qui a été fait par la Cour des comptes, les vénérables sénateurs ont regardé, ils ont estimé effectivement que le budget 2022 a été exécuté selon les lois et les règlements.
Les propos du ministre Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, recueillis par Émile Yao. Des certificats d'allocation sociale et des bons de permis de conduire ont été remis aux populations de la ville de Yamoussoukro au cours d'une cérémonie de portée sociale organisée par le conseil municipal de la ville. Des détails toujours avec Émile Yao.
Double cérémonie de portée sociale, expression de la solidarité de la mairie de Yamoussoukro à l'endroit de ses administrés. Rosimar Tangueta, présidente du comité d'organisation.
Pour cette année 2023, 30 bénéficiaires dans 3 catégories avec une allocation de 1 million de francs CFA par catégorie en raison de 100 000 francs par personne. Pour l'année 2024, l'allocation passera de 3 millions à 10 millions de francs CFA. Pour les permis de conduire, il s'agira à terme de 300 bons de permis de conduire. Aujourd'hui, ce sont 100 jeunes bénéficiaires qui constituent la première vague et qui recevront leurs bons.
Gratitude et reconnaissance, mais aussi prise d'engagement, des sentiments exprimés par Narcisse Kouakou, porte-parole des bénéficiaires.
Le permis de conduire étant un document d'employabilité pour nous les jeunes, nous saluons votre initiative qui nous offre une lueur d'espoir dans notre quête quotidienne d'emploi. Nous prenons l'engagement de capitaliser ce nouvel outil.
Le maire de la commune de Yamoussoukro, Kwasi Kwame Patrice, a pour sa part prodigué des conseils aux jeunes.
Le conseil que je vous donne à vous qui allez avoir des bons pour passer les permis de conduire, c'est de prendre ça au sérieux parce que ça peut vous ouvrir la porte sur autre chose. Ce que je vous conseille, une fois que vous aurez votre permis, mettez-vous en groupement, ayez des projets et la mairie essaiera de voir comment on peut vous accompagner.
Profitant de l'occasion, le maire Kwasi Kwame Patrice a décliné toute responsabilité quant à l'opération de décapissement actuellement en cours dans la ville, précisant qu'elle émane du gouvernement. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Lutte contre les violences basées sur le genre. À Bouna, un sous-groupe protection VBG a été mis en place dans la région du Bounkani par la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à l'endroit des demandeurs d'asile du site de Timala, dont les jeunes filles sont victimes de mariages forcés et précoces. Le lancement des activités de ce groupe de protection a eu lieu à Bouna le 30 novembre. Jérôme Kwasi.
Lat Muriel, en charge des violences basées sur le genre au bureau d'Abidjan du ICR, qui a fait une prospection sur le site.
Elles sont enfants et elles sont en même temps dans leur foyer. Et pendant les échanges, il y a beaucoup qui ont des cas de grossesse précoce aussi. Et vous imaginez les dangers qu'une fillette de 12 ans, de 16 ans peut courir avec une grossesse. Donc vraiment, le problème est sérieux et réel.
Pour le chef du bureau ICR de Bouna, il y faut une prise en charge holistique pour tous les cas de violences basées sur le genre. Évariste Delagoulé.
Il faut des gens qui font l'écoute pour détecter effectivement les victimes et puis faire les prises en charge et aussi les actions de prévention pour ne pas que ça intervienne.
C'est à ce rôle auquel va s'atteler ce sous-groupe VBG de détection, d'écoute et de prise en charge et surtout faire la sensibilisation selon Mme Kwame Zamblé Afoué-Louise, directrice régionale Femmes, Familles et Enfants du Bounkani.
Une prévention qu'on fera, aller vers les sites-là pour pouvoir sensibiliser les demandeurs d'asile et même la communauté. Également.
Le lancement officiel des activités du sous-groupe se situant dans le courant des 16 jours d'activisme contre les VBG, Lat Muriel du ICR aux travailleurs sociaux, membres du groupe protection.
Tout au long de vos activités, ayez en esprit la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
À la fin du processus de relocalisation, le site de Timala pourra abriter entre 6 000 et 7 000 personnes selon le ICR pour 1 000 logements construits. Jérôme Kwasi, Radio de la Paix.
Et toujours pour lutter contre les violences basées sur le genre, mais aussi pour mettre fin au phénomène de grossesse en milieu scolaire, la direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié une campagne éclatée dans 8 directions régionales du pays, en partenariat avec l'Agence française de développement, en vue de sensibiliser les élèves sur ces fléaux. Jean-Claude Mabéa était au lancement de cette campagne au Collège moderne Sogefia à Yopougon. Suivons son reportage.
En Côte d'Ivoire, nous avons pour la période de 2021-2022 5833 cas de grossesse en cours de scolarité, dont 233 cas au primaire.
Ce sont quelques données chiffrées présentées par Dr Brou Georgette, directrice de l'égalité et de l'équité du genre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais selon elle, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour réduire l'impact de ces fléaux à l'école, dont cette campagne.
Il y a plusieurs initiatives mises en place au nom desquelles les séances de sensibilisation. Il y a également l'éducation complète à la santé et à la vie saine. Il y a également la construction de lycées avec internat justement pour maintenir ces filles-là dans un environnement sécurisé qui est en cours. Et nous avons initié cette campagne pour échanger avec les élèves, pour mieux comprendre pourquoi ils prennent tant de risques et trouver ensemble les solutions liées à la persistance de ces fléaux-là en milieu scolaire.
La secrétaire générale de la DRENA Abidjan 3 a à son tour passé le message clé de cette campagne. Evelyne Soa.
Il s'agit de dire aux enfants de vraiment se concentrer sur leurs études. C'est ce qui est important pour eux. Prendre une grossesse, ça les empêche d'aller à l'école.
Pour Gouzile Eve, élève de 4e, la communication entre parents et enfants doit être un début de solution. Une charte d'engagement contre les grossesses en cours de scolarité et les VBG en milieu scolaire a donc été signée par les parties prenantes.
Et nous restons dans le milieu éducatif avec le groupe scolaire de Kodi, un village de la commune de Wélé. Pour lui permettre d'accroître sa capacité d'accueil en vue de favoriser l'accès à l'éducation, surtout à celle des jeunes filles, le conseil régional de l'IFU a remis officiellement aux populations du village, le vendredi 1er décembre, les clés d'un bâtiment de 3 salles de classe équipé en table-banc avec un bureau administratif. On en fait le point de la cérémonie qui a regrouper les acteurs du système éducatif avec notre correspondant sur place, François Kra.
Les salles de classe insuffisantes et vétustes, les élèves étudient dans de mauvaises conditions. Un calvaire au groupe scolaire de Kodi, dont la première école a été ouverte en 1980. Traoré Adam Kolia, président du conseil régional de l'IFU et ses collaborateurs, ne sont pas restés insensibles face à cette situation qui n'est pas sans conséquences pour l'avenir des enfants.
Ce bâtiment permettra à nos enfants d'avoir le goût d'aller à l'école, mais aussi et surtout de réussir dans la vie par la voie de l'école. C'est comme ça que nous arriverons à assurer la chaîne des générations, Dieu fierté de Kodi.
Ce bâtiment qui abrite la troisième école, la communauté éducative peut pousser un ouf de soulagement. Kofi Amouin Abigail, en classe de CM2, a au nom de ses camarades dit merci aux bâtisseurs.
Vos petits enfants vous disent infiniment merci pour cette belle école que vous offrez au village.
Cependant, l'abandon scolaire, surtout chez les jeunes filles, préoccupe le maire de Wélé, Dr Yah Raphaël.
Parce que celle qui a pris la parole au nom donc des élèves est une petite fille très intelligente. Malheureusement, jusqu'au CM2, ces intelligences-là disparaissent parce qu'elles sont soit enceintes, soit à la cuisine en train d'aider les parents à préparer. Et donc, nous avons interpellé les parents sur ce phénomène-là. Et nous entrevoyons à moyen terme de construire un internat de femmes, de sorte à mettre nos jeunes filles à l'abri.
Le groupe scolaire Kodi, sans clôture ni électricité, est également confronté à un déficit de logement des maîtres et à une pénurie d'eau courante. François Kra Daokro, Radio de la Paix.
Ouvrons à présent une fenêtre sur le monde. En Tanzanie, le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont eu lieu le week-end dernier est lourd. 76 morts. La présidente Samia Suluhu Hassan a écourté son séjour à la COP28 pour venir constater les dégâts dans le nord du pays. Une catastrophe qu'elle considère comme étant un signe d'alarme pour le gouvernement. lutte contre le terrorisme dans les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'apporter un soutien financier de 1,9 million de dollars américains, soit plus d'un milliard de francs CFA, à chacun des trois pays membres de cette alliance que sont le Burkina, le Mali et le Niger. L'annonce a été faite récemment par le président de la commission de la CDAO lors de la présentation de son rapport d'activité aux parlementaires de l'organisation. Comment expliquer cette aide annoncée de la CDAO quand on sait que ses relations avec ces trois pays ont été souvent tendues? Pour le comprendre, suivons le décryptage du professeur Jean-Marie Kwaku, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a été joint par Soro Adams.
Bon, déjà, je pense que c'est une décision raisonnable, mais c'est surtout une décision réaliste. La CDAO a peut-être enfin compris que son positionnement politique, voire militaire, dans le cadre de ces trois États dits du Sahel qui étaient concernés par les coups d'État. Son positionnement avait été fort polémique car jugé à géométrie variable et pas toujours constant. Donc aujourd'hui, de manière réaliste, il y avait d'abord le risque de division de la communauté. La CDAO est une communauté et donc il y avait un grand risque puisque le Mali, le Niger et le Burkina devenaient finalement un groupe dans le groupe. Ils parlaient déjà de créer leur propre union.
L'Alliance des États du Sahel.
Voilà, donc il y avait cette fragilité qui est énorme. Non, mais le CDAO ne pouvait pas supporter le coup, étant donné qu'elle-même n'est pas très très puissante actuellement. Et d'autre part aussi, les putschistes qui ont fait les coups d'État dans ces pays ont argué le même argument à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils venaient surtout pour lutter contre le djihadisme à leur porte et dans leur maison parfois. Or, la CDAO constate aujourd'hui qu'elle-même ne peut pas dire à ses États, faites ceci, dès lors qu'elle n'a pas aidé ses États à lutter contre le djihadisme. Donc elle se remet dans son droit et dans sa légitimité si aujourd'hui elle apporte cette aide. Sauf qu'à partir de là maintenant, elle serait fondée à intervenir dans le débat sur ces questions pour les pays concernés.
Vous venez d'écouter professeur Jean-Marie Kwaku, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui a été joint par Soro Adams. Et dans le cadre de l'invité de la rédaction, Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tanguy, a reçu le directeur général de l'OIPR de Côte d'Ivoire, le général Tondosama Adama. Il a relevé les enjeux de la politique de conservation et de protection du parc national de Taï dans un entretien que l'on vous propose maintenant.
Général Tondosama Adama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Alors, depuis des jours, l'on observe une série d'activités menées par l'OIPR à Guéglo, dans le Cavali. Situez-nous un peu le cadre de ces séries d'activités.
Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour parler des activités de l'OIPR. Il faut dire que l'activité qui a eu lieu aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités qui sont menées au niveau du parc national de Taï. Et comme vous le savez, au niveau du parc national de Taï, il y a un comité de gestion locale qui se réunit chaque trimestre pour faire le point des activités. Et vous avez pu le constater qu'aujourd'hui, ils ont présenté le bilan des plans d'opération 2023 où nous avons vu qu'il y a une performance de 77%. Cela veut dire que les activités se déroulent conformément à ce qui a été planifié. Le deuxième élément qui a été présenté, c'est l'état des activités qui sont mises à la périphérie du parc national des Taï. Et là, vous avez pu constater qu'il y a 64 micro-projets qui sont en cours de développement. Et ces micro-projets sont des micro-projets d'élevage, des micro-projets d'infrastructures sociales pour les populations riveraines. Et le suivi est fait par CARE International, qui est notre partenaire, grâce à un financement de la Banque mondiale. Et le troisième élément qui est important, c'est le prix vert qui est attribué chaque année. Il faut dire que cette année, on a pu faire le bilan pour faire le point, la sélection des villages. Il y a trois villages qui ont été sélectionnés et les prix qui seront distribués, c'est à hauteur de 10 millions de francs CFA qui sera réparti entre les trois gagnants. Et ces trois gagnants ont décidé de faire quelques réalisations en termes d'infrastructures. Pour certains villages, c'est des foyers de jeunes. Pour d'autres, c'est l'achèvement de la construction du logement de l'instituteur et de l'infirmier. Donc voilà une série d'actions qui sont menées. Donc il faut dire que cette activité vraiment est importante pour nous parce que ça permet de savoir exactement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire pour assurer la gestion durable du parc national de Taï.
Et qu'est-ce qu'il reste donc à faire suite à ces résultats probants?
Il reste beaucoup à faire. Vous le savez, le parc national de Taï, c'est 536 000 hectares de forêt qu'il faut surveiller tout le temps. Donc déjà, les surveillants qui sont menés, il faut dire que nous devons continuer à mener nos activités de surveillance. Et le deuxième élément qui est important, nous devons continuer à sensibiliser nos populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. Et puis comme vous le savez, on ne peut pas gérer cet espace sans tenir compte du développement social et économique de la périphérie. Donc nous allons mettre encore des moyens additionnel pour aider les populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée.
Tout à l'heure, vous avez noté un taux de réalisation très satisfaisant. satisfaisant. Qu'est-ce qui a motivé en faveur de ces résultats?
Mais je pense que c'est la mobilisation premièrement de nos agents, des agents de l'OIPR, qui ont fait leur devoir de mettre en œuvre le plan d'action que nous avons défini ensemble en début d'année 2023. Les deuxièmes acteurs, ce sont les populations riveraines, vous avez pu le constater. Ces populations sont impliquées, ils les utilisent comme des auxiliaires pour aider nos équipes à travailler en matière de suivi, en matière de suivi écologique. Mais le troisième acteur qui pour moi est très important, c'est la mobilisation de l'autorité administrative. Vous avez pu le constater, tous les préfets de la région étaient là, les sous-préfets étaient là. Ces autorités administratives participent activement aux actions de sensibilisation auprès des populations. Donc je peux dire que ce qui a pu être fait, c'est grâce à l'effort de tous, à l'effort conjugué de toutes ces personnes. Puis vous pouvez le constater tout à l'heure quand on présentait les actions, c'est à la périphérie, c'est CARE International qui met en œuvre. Donc ça veut dire que la satisfaction qui se dégage, c'est que cette structure nous aide à mieux encadrer les populations, à apporter des appuis aux populations. Donc c'est une action commune de l'OIPR, de ses partenaires, notamment les autorités administratives, les populations riveraines et les partenaires techniques et financiers, la GIZ et autres, qui nous aident, la WC qui nous aide à sensibiliser la population. Donc voilà une série d'actions, une série d'acteurs qui intervient pour la mise en œuvre de toutes ces actions-là.
Autre information, c'est que désormais, la forêt classée du Kavali est intégrée dans les réserves naturelles que vous devez surveiller. Qu'est-ce qui a motivé cela?
Mais il faut signaler que dans le cadre de la préservation des forêts en Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a défini une stratégie qu'on appelle la politique de réhabilitation et d'extension des forêts pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays forestier. Donc l'un des objectifs était que toutes les forêts classées qui sont en bon état de conservation puissent être surclassées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la forêt classée de Mabi, la forêt classée de Yaya, la forêt classée de Bossé-Maté ont été surclassées. Et tout dernièrement, je crois le mois en septembre dernier, le gouvernement a décidé que la forêt classée de Kavali soit surclassée pour devenir une réserve naturelle de Kavali. Et donc, dès que ça passe dans le domaine des aires protégées, ça devient le domaine d'intervention de l'OIPR. Donc du coup, je peux dire que ça a été surclassé pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'un de ses objectifs, c'est-à-dire augmenter la couverture forestière ivoirienne. D'autres intérêts, vous le savez, l'intérêt des aires protégées, c'est que quand il y a une aire protégée dans une zone, ça crée des services écosystémiques. Tout le monde le sait. Quand vous prenez le parc national de Taï aujourd'hui, grâce au parc national de Taï, on a une forte pluviométrie au sud-ouest et du coup, tout ce qui est production agricole se développe davantage. Donc en augmentant la superficie forestière dans cette zone, on ne fera qu'accroître la productivité des populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées-là.
Qu'est-ce qui sera fait pour sa protection véritable?
Mais pour sa protection véritable, nous allons déployer les mêmes moyens que nous développons au niveau du parc national de Taï. Notamment, nous allons développer des activités de surveillance. Nous allons développer des activités de connaissance de l'espace par le suivi écologique. Et nous allons mener des activités de sensibilisation des populations sur la périphérie. Et nous allons développer des activités alternatives, des activités d'appui aux populations pour nous aider à mieux préserver l'espace. Donc c'est véritablement les fonctions de gestion d'une aire protégée qui vont être appliquées à cette réserve-là. C'est dire aux populations riveraines que ces espaces qui sont devenus aires protégées, c'est pour leur bien. Donc je leur demande d'en faire une gestion patrimoniale, faire en sorte que nous mettons ensemble l'OIP et toutes ces populations riveraines puissent se mettre ensemble pour que nous puissions avoir une vision commune de préservation et puis de valorisation des espaces plus tard.
Merci général.
Merci à vous aussi.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les jeunesses issues des différents partis politiques ivoiriens ont bénéficié de renforcements de capacités sur leur engagement et le leadership politique à l'initiative du Bureau ivoirien du National Democratic Institute. Lutte contre les violences basées sur le genre, un sous-groupe protection VBG a été mis en place dans la région du Bounkani par la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et à l'international, en Tanzanie, le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont eu lieu le week-end dernier fait état de 76 morts. La présidente Samia Suluhu Hassan écourte son séjour à la COP28 pour venir constater les dégâts. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après ce journal la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. Le PDCI focalise toujours l'attention de vos journaux par rapport à l'élection le 16 décembre prochain pour lui trouver un nouveau président après la disparition le 1er août 2023 de son charismatique et emblématique